Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma aujourd'hui. F comme français, cinéma français, état des lieux avant travaux, avec Bertrand Bonello, Marie Massementeil et Nicole Vulzaer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. On parle beaucoup en ce moment de crise du cinéma français. Il s'agit essentiellement d'une crise de surproduction. La phrase n'est pas d'aujourd'hui, elle n'est même pas de moi, elle est signée François Truffaut en 1956. C'est dire si des crises le cinéma français en a toujours connu. Et pourtant, à première vue, en ce moment, tout va bien. Un nombre de films produits chaque année en constante augmentation, près de 300, est régulièrement récompensé dans les festivals internationaux. Un système de financement que le monde entier nous envie, qui prélève des taxes sur ceux qui les exploitent pour les redistribuer à l'ensemble du secteur. Un parc de 6000 salles où on peut voir des films du monde entier et qui affiche des entrées records, avec une part de marché très enviable pour les films nationaux. Et pourtant, les inquiétudes sont vives comme jamais. Le modèle économique du cinéma français serait au bord du gouffre avec la baisse du financement des télévisions, indexé sur leur chiffre d'affaires en chute, et l'incertitude quant à la bonne volonté des plateformes Internet de contribuer à leur tour. Il ne serait plus dans l'air du temps néolibéral le cinéma français, comme l'attestent des rapports parlementaires ou servant de marchepied à l'accession à la présidence du Centre National du Cinéma, qui stigmatise l'insuffisante rentabilité en salle de nombre de films ou leur financement trop dépendant de la puissance publique, ou encore un pamphlet aigri et récompensé d'un prestigieux prix littéraire qui, par la formule « cinéma français 2. oxymore », en déplore la médiocrité. Et la France de devenir, drôle de nouvelle exception culturelle, le seul pays au monde qui pense avoir trop de cinéma d'auteur. À la veille de négociations cruciales et d'une remise à plat générale des quelques 150 aides dispensées par le CNC, et à 2 semaines de la cérémonie des Césars, institution elle-même en crise et sous le coup de virulentes attaques qui ont provoqué jeudi soir la démission collective de son conseil d'administration, et alors encore que la prise de parole d'Adèle Haenel provoque depuis novembre une profonde remise en cause des pratiques du secteur, Plan Large dresse un état des lieux avant travaux avec nos invités, le cinéaste Bertrand Bonello, dont le dernier film Zombie Child nous avait captivé l'an dernier, et actuel vice-président de la Société des réalisateurs de films, la SRF, Marie Massementeil, productrice sous la bannière d'Elsevier Film et vice-présidente, elle, du syndicat des producteurs indépendants, le SPI, et notre consoeur Nicole Vulzaer, qui suit pour le journal Le Monde le cinéma sous son angle économique. Au fait, ça donne quoi, une année de cinéma français vue par les Césars?
Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis.
Tu veux plus qu'on dorme ensemble?
Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi.
Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle?
La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme.
Et si on te demande comment tu es venu?
En métro.
En passant par quelle station?
Saint-Lazare.
Et ensuite?
Porte de Champéret.
Yes.
Je vais tout déchirer.
Bah, j'espère bien. Enfin, pas tout quand même, hein.
Bonjour, madame. Police de Roubaix. On est ici pour l'incendie qui a eu lieu à côté de chez vous. Vous avez vu quelque chose?
Maman, tu te souviens? Un jour, en sortant du catéchisme, je t'avais dit qu'après elle m'avait embrassé.
Pourquoi vous étiez pas allé voir la police?
J'aurais satisfaction.
On va la trouver chez tes putes.
Lâche! Traître! Sale juif!
Ça sent le shit, ça. Hein? Bon, il est où? Tu l'as mis où?
Vous avez pas le droit de masser.
Je fais ce que je veux. Tu l'as mis où?
Vous avez pas le droit de masser comme ça.
Comment ça, j'ai pas le droit? C'est l'état d'urgence. Si je veux, je te mets un doigt dans le cul, t'as compris?
Mais c'est pas normal.
Ferme ta gueule, toi.
Vous avez pas le droit de faire ça.
Tu veux faire 48 heures?
Vous avez pas le droit de faire ça, vous avez pas le droit.
Eh, hey, c'est bon, c'est bon.
Ça va, je gère. T'as trouvé ça où? Tu veux que je continue à te palper ou pas? Tu fais quoi, là?
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça, vos regards.
Les 7 meilleurs films français de l'année écoulée, selon les professionnels de la profession, comme les appelait Godard, sont donc par ordre d'entrée en scène dans ce montage confectionné par la réalisatrice de Plan Large, Séverine Cassard. Vous en aurez sans doute reconnu la plupart. La Belle Époque de Nicolas Bedos, Hors Normes de Nakache et Toledano, Roubaix, Une Lumière d'Arnaud Desplechin, Grâce à Dieu de François Ozon, J'accuse de Roman Polanski, Les Misérables de Ladjli et Ah tiens, eh ben oui, une cinéaste tout de même, et quel cinéaste, Portrait de la jeune Fille en feu de Céline Sciamma. Pas mal d'oublis évidemment qui en disent long sans doute, on y reviendra. Mais voilà qu'avant même l'annonce des nommés, l'Académie des Césars et le président de l'association qu'il administre, le producteur Alain Terzian, ont fait l'objet de vives attaques. Les organisations que vous vice-présidez, Marie Masse-Monteil et Bertrand Bonello, le SPI et la SRF, lui ont adressé une lettre ouverte dénonçant son opacité. Lundi soir, une tribune signée par plus de 400 personnes du cinéma, dont vous, Bertrand Bonello, est publié dans Le Monde, dénoncer à nouveau l'opacité, le manque de démocratie au sein de l'Académie et en réclamer une réforme profonde. Résultat pour, je cite, « retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête », le conseil d'administration de l'association qui gère la dite fête a donc collectivement démissionné jeudi soir. Que se passe-t-il au sein des Césars et surtout, que se passe-t-il entre le cinéma français, ses organisations et les Césars, Bertrand Bonello?
La question est large, les organisateurs. Enfin, alors, si c'est juste pour parler des Césars, en effet, il y a une pétition qui mettait en lumière, enfin, rien contre Alain Terzian par ailleurs, hein, mais un système qui nous semblait pas très représentatif des membres qui votaient, en fait. Donc, l'idée, c'est d'aller peut-être plus vers quelque chose comme les Oscars. Et que les membres, les 4700, soient, se sentent plus représentés et par le conseil d'administration et du coup par effet de domino, par pas mal de changements. Ouais.
Marie Masse-Monteil, vous avez rencontré Alain Terzian il y a peu, avant donc sa démission avec l'ensemble de son conseil d'administration. En quoi l'organisation même des Césars représente peut-être des blocages, Vincent Maraval, qui est toujours très bouillant sur Twitter, a dénoncé une poignée d'hommes qui posent problème dans le cinéma français en se cooptant mutuellement depuis 30 ans à la tête de toutes les commissions, toutes les organisations. Le fait que le film de Roman Polanski arrive en tête des nominations avec 12 nominations voilà, pour les Césars cette année donne l'impression que malgré tout ce qui se passe dans le cinéma français depuis deux ans, depuis l'affaire MeToo, depuis la prise de parole d'Adèle Haenel en novembre, il reste ici et là des blocages qui n'évoluent pas avec la société d'aujourd'hui.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que bon, ça arrive aujourd'hui. Et je pense que c'est une réplique, comme dans les tremblements de terre, de tout ce qui s'est passé, comme vous venez de le dire. En fait, nous, ce qu'on revendique tous ensemble, c'est un peu plus de transparence. Je crois que c'est juste ça. Donc, c'est un peu l'opacité de la gouvernance des Césars qu'on a remise en question. C'était aussi... Alors ça, c'est la... Il y a eu une prise de conscience aussi grâce au mouvement 50-50, au collectif 50-50. Donc on a obtenu enfin des chiffres et on a appris que sur les votants, il y avait 65% d'hommes, 35% de femmes, que effectivement au sein de l'Assemblée générale des Césars, il y avait 57 personnes qui étaient effectivement cooptées depuis l'origine et que au sein du conseil d'administration, il y avait 21 personnes cooptées par les 57 personnes de l'Assemblée générale qui et donc le conseil d'administration y votait pour le président. Sachant que la liste des membres du conseil d'administration, là en l'occurrence, était publique, et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était plutôt des hommes de plus de 70 ans. Donc c'est pour ça qu'avec la SRF, principalement, le SPI, on a demandé qu'il y ait un peu plus de parité d'une part, et puis surtout que ça reflète un peu plus le cinéma qui est en train de se faire. Et voilà, et on est tous contents que ça bouge.
Voilà, il faut que les choses bougent et les choses changent dans le cinéma français, en tout cas depuis l'affaire Weinstein. Vous avez fait mention, Marie Masse-Monteil, de ce collectif 50-50 qui fait des études, qui produit des chiffres, mais qui permet aussi des changements. Depuis deux ans, il y a eu l'annonce, enfin un peu moins un an et demi, par le CNC sous la présidence précédente, avant Dominique Boutonnat, l'actuel président, c'était Frédéric Bredin, de mesures pour atteindre la parité cotés dans le cinéma. Il y a eu un bonus de 15% sur les aides pour les films dont les équipes de tournage sont paritaires. Je crois que l'an dernier, ça a bénéficié à 29 films. D'année en année, qu'est-ce qu'on observe comme changement, vraiment, dans cette politique pour la parité, Marie-Messe Montaigne?
En fait, la parité, ça veut dire la parité. C'est ça qui était intéressant avec les mesures qui ont été prises par le Centre National du Cinéma. C'était un film pouvait bénéficier effectivement d'un avantage par rapport à une bonification du compte de soutien à partir du moment où les chefs de poste, enfin il y avait 10 postes qui étaient envisagés, étaient paritaires. Mais ça pouvait être le cas lorsque le film était réalisé par un homme. L'idée, globalement, c'est pas du tout de dire on va systématiquement favoriser les films réalisés par les femmes. Simplement, on va essayer de faire en sorte que aussi bien les réalisatrices que les chefs de poste, quels qu'ils soient, puissent avoir des carrières, partir sur des films de plus en plus dotés financièrement, parce que on sait aussi, grâce aux différentes données qui ont été communiquées, on s'est rendu compte que les femmes effectivement représenter 25% aujourd'hui des films réalisés, mais c'était surtout des films pas très chers en fait. Et ça doit être la même chose pour les chefs des postes, les chefs décorateurs, les chefs ingénieurs du son, les chefs opérateurs. Donc voilà, l'idée c'est de constat, de dire poussons toute cette effervescence, essayons de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de femmes et de chefs de poste, de techniciens qui se disent qu'ils peuvent absolument réaliser des films ou participer à des films, qu'il n'y ait pas d'autocensure, on va dire. Après, je pense que Bertrand sera d'accord, le talent, ça se décrète pas. Et donc, l'idée n'est pas du tout, par contre, d'imposer des quotas dans la sélection de festivals. On veut juste avoir des données. Et à partir de ces données, dire, je sais pas, s'il y a 25% de femmes qui sollicitent la sélection de la compétition à Cannes, qu'est-ce qui se passe? Et puis de pouvoir en discuter, c'est tout. Je reviens à l'idée de transparence, c'est ça qui nous paraît le plus important.
Bertrand Bonello, la SRF est très en pointe sur ces questions-là. La prise de parole, encore une fois, d'Ada Lainel a été soutenue par la SRF, même si ça a créé un peu des remous en interne, puisque la personne mise en cause par Ada Lainel est une figure importante et très militante de la SRF. Est-ce qu'il y a quelle est la réflexion actuellement au sein de la SRF, au-delà de ces débats de conseil d'administration, sur l'alerte qu'a lancée Ada Lainel et en tout cas la prise de conscience sur comment se passent des tournages au-delà de la parité même dans les équipes techniques?
Oui, alors évidemment ça a été très délicat pour nous, mais on a immédiatement soutenu Adèle. Au-delà de après la justice est en train de faire son travail, mais on l'a immédiatement soutenu sur le geste qu'elle a fait, qui était quand même très courageux et très clair surtout. Là où je l'ai trouvé assez remarquable, c'est qu'elle disait « je suis désolé pour lui, que ça tombe sur lui, mais si moi parlant, les autres peuvent parler, voilà ». Donc ça évidemment c'est quelque chose qu'on soutient, qu'on appuie. Il y a pas mal de choses en cours, y compris avec le CNC, pour voir comment les tournages peuvent mieux se passer. Tout ça est en mouvement, c'est ça qui est bien.
Nicole Wulzer, vous observez un effet immédiat de cette prise de parole et d'une prise de conscience sur comment doivent se dérouler des tournages, sur la nomination de référents, harcèlement sexuel sur certains tournages.
Oui, ça avance très doucement en même temps. C'est un peu comme dans le cinéma, comme dans les autres arts. C'est une prise de conscience, mais qui n'est pas du tout directement. Il y a encore finalement très peu de changements. Les consciences sont quand même très longues. Il y a effectivement un début de choses, mais concrètement, il y a quand même assez peu de choses concrètes qui sont mises en place.
Marie-Messe Montaigne, comme productrice, par exemple, est-ce que vous envisagez les choses différemment maintenant? Enfin, je sais que vous avez réagi au moment où Ada Lainel prenait la parole en vous disant, mais où était le producteur à ce moment-là? Il vous est arrivé, on va pas forcément citer des noms, mais des problèmes un peu comme ça. Mais est-ce que cette prise de conscience, même au niveau de personnes qui en avaient déjà conscience, change quelque chose?
Oui, alors là, du coup, vous faites référence à une phrase malheureuse. Parce qu'évidemment, j'ai jamais voulu remettre en question le rôle du producteur du film Les Diables, qui est Bertrand Fèvre, que je connais, et qui a été très meurtri par cette phrase, que j'ai pas eu l'occasion de relire dans le cadre d'une conversation avec une journaliste du Monde. Donc, ça me permet de faire publiquement, comment dire, contrition par rapport à lui. Mais ça voulait dire plus globalement que, effectivement, la première vigilance par rapport à ce genre d'acte, c'est l'ensemble du tournage qui doit être vigilant. Et si l'acte répréhensible provient soit du réalisateur, soit de toute équipe qui peut avoir, tout chef d'équipe, hein, qui peut avoir du pouvoir sur tout stagiaire, subordonné, voilà. Je pense que la personne qui peut le plus y mettre le holà, c'est le producteur. Et si je dis ça, c'est que ça nous est arrivé sur un film qu'on tournait à Périgueux, où le réalisateur harcelait la comédienne. Et dès qu'on a été prévenu avec mon associé, on a fait un tour de rôle. On est parti en permanence sur le tournage, voilà. Pour que ça ne se produise pas et qu'il y ait éviter tout problème, voilà. Sachant que là, on avait été averti par le directeur de production et qu'il ne s'est pas passé 5 minutes entre le moment où il nous a averti et le moment où on était, il fallait arriver à Périgueux.
Paris-Périgueux en 5 minutes.
Voilà. Donc voilà, c'était cette vigilance dont je voulais parler. Et je pense que là, par contre, on est tous sensibilisés à ça maintenant. Tous sensibilisés. Et faire en sorte que rien ne puisse se produire. Et encore une fois, c'est pas forcément le réalisateur ou la réalisatrice d'ailleurs. Ça peut être toute personne qui a une sorte de pouvoir de subordination, peut-être des producteurs aussi d'ailleurs, j'en sais rien. C'est vrai que après MeToo, on a eu le sentiment qu'en France, personne ne parlait. Personne ne disait quoi que ce soit. On disait, c'est quand même bizarre. Il a bien dû se passer des choses. Et c'est vrai que Adèle a libéré ça, voilà.
Bertrand Bonello ?
Non, ce qui est difficile, c'est qu'un plateau de cinéma, presque par définition, est aussi un lieu de pouvoir et de séduction. Enfin, c'est aussi sa fonction. Donc, c'est comment ce pouvoir et cette séduction peuvent s'exercer sans dépasser une limite. C'est vraiment des choses de curseur. Parce qu'un metteur en scène, évidemment, il a un pouvoir sur le plateau. Il doit le diriger. Donc voilà, comment ce pouvoir peut s'exercer sans jamais dépasser la ligne.
La fille qui vous a volé votre voiture a été entièrement nue.
Vous ne croyez pas ?
Si, si, au contraire. Il se trouve que nous avons un léger problème de nudistes révolutionnaires dans la région.
Pardon ?
Un groupuscule d'extrémistes. Ils prônent une insurrection primitive et dénudée.
Bonjour. Bien dormi ?
Qu'est-ce que tu fais là ?
C'est une blague. Toi, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ?
Rien, je sais pas, c'est...
Pourquoi tu me réponds pas ? Pourquoi tu m'as bloqué ?
Inspecteur Issa Diop, il va charger de l'enquête.
Tu vois, il y a des gens, toute leur vie, sont très malheureux et ils n'arrivent jamais à guérir du malheur. Alors du coup, ils sont obligés de prendre plein de trucs pour oublier qu'ils sont en vie. Et puis, quand il leur reste de l'énergie, ils la consacrent essentiellement à pourrir la vie des autres.
Vous parlez de mon blouson ?
Pourquoi on parlerait de ton blouson ?
Franchement, vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal.
Enfin, elle est chelou quand même. C'est bien les gens chelous. Puis j'aime bien comment elle danse, moi.
Tu parles de qui là? Tu regardes quelle vidéo?
Non, Mélissa.
Elle est où là?
Là-bas.
Enfin, meuf, on s'en fout que t'aimes bien comment elle danse. Hein. C'est une sororité littéraire, je te rappelle. Le truc important, c'est est-ce qu'elle est suffisamment cool pour être avec nous, c'est tout.
Vous écoutez France Culture, plan large sur le cinéma français, état des lieux avant travaux avec Marie Massementeil, Nicole Vulzer et, puisqu'il est suffisamment cool pour être avec nous, Bertrand Bonello. Et pourtant, son très beau Zombie Child, sorti l'an dernier, n'a pas été retenu dans aucune des catégories des Césars, comme sont oubliés ou n'ont pas la place qu'ils méritent certains des autres films dont on a entendu un extrait dans ce nouveau montage de Séverine Cassard, à savoir Perdrix d'Erwan Leduc, Une fille facile de Rebecca Zlotowski, Tu mérites un amour d'Afsia
Laherzy, le très beau Atlantique de Mati Diop, Sibylle de Justine Triet, le Dain de Quentin Dupieux, et donc votre Zombie Child, des films qui, pour certains, payent peut-être le fait de ne pas avoir fait en salle la carrière qu'ils méritaient et qui rentrent, pour certains, dans la catégorie vilipendée de ce tiers, je crois, des films français qui font moins de 50 000 entrées en salle et dont s'indignait dans son rapport la députée macroniste Marie-Ange Magne. Et puis on entend ici et là qu'il y a trop de films produits en France. Bien sûr, personne n'est d'accord sur lesquels il ne faudrait pas tourner. Cette nouvelle exception culturelle à la française, le seul pays au monde qui pense avoir trop de cinéma d'auteur dont je parlais en préambule, c'est une formule que j'ai piquée dans un communiqué de la SRF. Vous sentez, après qu'il ait beaucoup été soutenu, une sorte d'hostilité au plus haut niveau de l'État envers la dimension artistique et donc possiblement hors marché du cinéma français, Bertrand Bonello ?
Oui, on la sent depuis quelques mois. Voilà, on est dans une période délicate. On est dans une période de mutation, ça on est à peu près tous d'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans les périodes de mutation ? Bah, j'ai l'impression qu'il faut essayer de, à la fois de protéger certaines choses qui seraient en voie de disparition ou de fragilité, tout en accueillant d'autres choses. Et c'est cette période qu'on vit, qui va être, je sais pas, peut-être 2-3 ans comme ça. Alors, je veux juste revenir sur un truc, c'est parce que c'est vrai que sur quoi on est beaucoup attaqué, c'est sur cette notion de rentabilité. Mmh. Et je trouve que elle est totalement fausse. Elle est présentée de manière fausse toujours.
Ça fait longtemps qu'elle est fausse. On a l'impression que les rédacteurs et rédactrices de ces rapports voient le cinéma comme il était dans les années 70, où tout se faisait sur les entrées en salle.
Ils font une espèce de colonne plus moins. Ils se disent voilà, c'est ça. Il y a un tableau que je trouve absolument scandaleux qui paraît chaque année dans le film français, qui classe les films par ordre de rentabilité, et ils font ça a coûté tant et il y a eu tant de spectateurs. Et on se retrouve avec des aberrations. Des aberrations. D'abord, il faut savoir qu'un film, il n'est pas rentable en un an. La rentabilité, elle est plus sur 5 ans que sur un an. Deuxièmement, ça exclut complètement la carrière des films à l'étranger. Alors peut-être que mon film a fait très peu d'entrées en France, mais il s'est vendu quasiment partout. Donc ça aussi, ça compte. Au-delà de ça, ça fait rayonner aussi le cinéma français, parce que c'est pas celui qui fait le plus d'entrées en salle qui rayonne le plus à l'étranger. Donc ça aussi, c'est important. Et troisièmement, c'est quoi cette rentabilité à archi court terme ? Je prends toujours le même exemple parce qu'il est assez facile. Justine Triet fait très peu d'entrées avec son premier, mais ça lui permet de faire son second, et elle fait beaucoup d'entrées avec son second. Si on la condamne sur le peu de rentabilité à court terme sur le premier film, eh ben il n'y a pas le second. Donc voilà, toutes ces données font que c'est très facile de dire le film n'est pas rentable. C'est une espèce de raccourci qui nous sanctionne énormément, mais qui est quand même complètement faux.
Alors je précise qu'à plan large, nous avons invité à plusieurs reprises le nouveau président du Centre National du Cinéma, Dominique Boutonnat, qui avait été nommé au cœur de l'été dernier par Emmanuel Macron, malgré un tir de barrage préventif de la plupart des représentants du secteur. Nous l'avions invité pour qu'il nous explique ses intentions et sa stratégie. Alors, il ne souhaite pas s'exprimer à la radio pour l'instant, on le déplore, mais il vous a tout de même accordé un entretien, Nicole Vulzer, c'était dans Le Monde du 1er février, sous le titre « Certains films ne sont pas assez travaillés ». Il y estime que trop de longs métrages sont mal exposés, mal financés. Qu'incarne-t-il, à votre avis, vous qui l'avez rencontré, Nicole Vulzer, chanceuse que vous êtes, qu'incarne-t-il comme vision politique de ce que doit être le cinéma en France ?
Alors, en fait, oui, effectivement, on a eu aussi beaucoup de temps avant de réussir à le voir. Donc, on a eu de la chance. Il nous a accordé effectivement un long entretien. Alors, en fait, la première chose, c'est que pour la première fois, c'est un producteur qui est à la tête du CNC. C'est une chose nouvelle.
Un producteur ou un financier ? Parce qu'il est un peu il est présenté comme producteur de 300 films sur le site du CNC. C'est surtout quelqu'un qui a une Sofica, c'est-à-dire une société d'investissement défiscalisée dans le cinéma, qui met de l'argent, mais c'est pas un initiateur de projet, en tout cas.
Les deux, c'est-à-dire qu'il est à la fois producteur et financier. Tout à fait, il a effectivement été à la tête de nombreuses Sofica, des Sofica qui sont des sociétés de financement du cinéma, donc qui aident en fait à boucler le bouclage des films et qui permettent aussi une défiscalisation pour ceux qui
investissent dans ces sociétés.
Oui. Absolument. Donc, en fait, Monsieur Boutonnat est venu à la tête du CNC après avoir publié un rapport qui était précisément sur la question du financement privé dans le cinéma français. Or, dans le cinéma français, il y a finalement très peu, il y a quasiment plus de banques qui investissent, il y a très peu d'investisseurs privés, contrairement aux États-Unis. Donc ça donnait, initialement, il devait répondre à cette question, qu'en faire ? Or, la vraie réponse qu'il apporte dans ce rapport, c'est de dire, faisons appel à la BPI France, c'est-à-dire la Banque publique d'investissement. À la question « Trouver du financement privé ?», il répond « Voici du financement public ». Donc en fait, c'était aussi son rapport a été extrêmement critiqué, alors que bizarrement, il apportait une solution non pas privée, mais bizarrement publique à cette question-là. Il a été entendu, à la suite de ce rapport, Emmanuel Macron a décidé de consacrer en fait 225 millions d'euros à la fois au cinéma et aux industries culturelles et créatives. Ce mot industrie culturelle et créative est une espèce de barbarie étrange qui enveloppe des choses extrêmement larges qui sont à la fois le cinéma, mais ça peut être aussi la mode, ça peut être des produits de beauté, ça peut être énormément de choses. Donc la question de sanctuariser de l'argent pour le cinéma n'est absolument pas acquise à l'heure qu'il est. Alors que Boutonnat espérait avoir entre 80 et 100 millions d'euros consacrés strictement au cinéma. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
C'est un flou sans doute savamment entretenu, comme dans les autres domaines de la politique. Ce qu'a annoncé en tout cas Dominique Boutonnat dans cet entretien avec vous, Nicole Vulzer, c'est une remise à plat des quelques 150 aides que distribue actuellement le CNC, qui sont revues à l'aune de trois critères, hein, je le cite, l'indépendance de la création, la diversité et l'accès aux œuvres. Alors remettre à plat 150 aides, on imagine l'ampleur du chantier et à quel point vos organisations respectives, Bertrand Bonello et Marie Masmonteil, vont tenter de peser dans les négociations. C'était nécessaire de tout remettre à plat, Marie Masmonteil ?
Alors franchement, j'en sais rien. Moi, j'avais l'impression que ça marchait. Apparemment, il y a des aides qui doublonnent. Là, c'est... Franchement, là, du coup, c'est vraiment trop tôt pour en parler. Ils vont réfléchir. On va, évidemment, toutes les organisations du cinéma et de l'audiovisuel, puisque l'audiovisuel est concerné aussi... on va voir ce qu'il propose. Je pense que effectivement, il y a apparemment deux objectifs principaux outre ceux dont vous parlez, c'est travailler autour de la création, donc l'écriture, et puis l'international. Mais en fait, pour répondre un peu à côté à votre question, nous, il y a quelque chose qui nous interroge beaucoup dans l'attitude du CNC. C'est effectivement de gérer des aides, de réfléchir à si elles sont intelligentes ou pas. Ça c'est plutôt une bonne idée. Mais par contre, on trouve qu'ils prennent de plus en plus une direction éditoriale. C'est-à-dire lorsque Dominique Boutonnat dit il faut faire des films pour les jeunes, il n'y a pas assez de films pour les jeunes. Bon, on peut entendre ça, nous les producteurs, de réfléchir à ça, de se dire... Enfin les jeunes, c'est-à-dire les adolescents en l'occurrence. Mais on a l'impression que... Et on ne voudrait pas que des aides soient fléchées vers systématiquement des films pour les jeunes, ou qu'au sein d'une commission à laquelle j'ai participé deux fois en tant que vice-présidente, c'est-à-dire la commission d'avance sur recettes, on nous donne des directives. Parce qu'on a toujours un peu le sentiment que l'avance sur recettes, c'est des gens entre eux qui discutent. Bon. Et en fait, les deux fois, moi j'ai passé 5 ans, donc ça veut dire que je lisais à peu près 40 scénarios par mois, j'ai été... vraiment intéressé par le fait que des gens venant de plein d'horizons discuter, essayer d'être le plus bienveillant possible, se poser des questions et ne travailler pas en clan en fait. Et là, on apprend que peut-être il y aurait des youtubeurs à l'avance sur recette. Donc effectivement, le côté cinéma d'auteur, ça risque d'en prendre un coup alors que c'est vraiment le lieu central du cinéma d'auteur.
Mais en plus, qu'est-ce que c'est qu'un film pour les jeunes ? Enfin, Bertrand Bonello, Zombie Child, pour moi, c'est un film pour les jeunes qui parle à la jeunesse avec des jeunes. Donc, le fait de catégoriser comme ça d'emblée, en faisant en plus maintenant des commissions films de genre. Alors cette année, on a aidé les comédies musicales. L'année prochaine, on a l'impression qu'effectivement, l'éditorial s'invite dans ces commissions.
À la SRF, on s'est exprimé très très clairement. On a vraiment été très contre, cette espèce d'anti. Fluidité, par ailleurs, parce que c'est là on est vraiment dans la ghettoisation, alors qu'on est sur de plus en plus sur la transversalité, on essaie de travailler là-dessus. Bon. Les jeunes, il faut un peu les connaître aussi, les jeunes, pour comprendre que... Je parlais de mutation, mais il y a dans la mutation, il y a aussi leur manière de regarder les films. En effet, elle change. Pourquoi ils regardent plus sur leur ordinateur qu'en salle? Il faut s'interroger aussi là-dessus. Enfin, c'est toute la mutation, elle est un petit peu partout. Donc, en effet, éditorialiser pour récupérer un public qui préfère regarder les plateformes, je pense pas du tout que ce soit la bonne manière de penser. Après, les remises à plat, bon, il y a forcément des choses qu'il faut réactualiser, mais on sera extrêmement vigilant. Marie parlait de l'avance sur recette, qui pour moi est peut-être la plus symbolique des aides. Et on sera extrêmement vigilant à la protéger dans sa liberté absolue. Quoi.
Alors, ils ne vous ont pas dit si vous faisiez une chimio ou pas? À la fin du mois. C'est un petit incident de parcours qui est mais pas une seconde. Pas une seconde, et je vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Hein? Qu'on tourne maintenant ou qu'on tourne dans quelques mois, quelle est la différence? Moi, je serais un autre dans 3 ou 4 mois, je ferais pas le même film. C'est tout ce que je peux dire. Hein? Et puis c'est tout. Et vous non plus, c'est ça qui est merveilleux. On fera le film avec ce qu'on est au moment où on tournera. Hein? Voilà. Bon, écoutez, mademoiselle Bernheim, hein, que la grâce descende sur vous. Voilà. Voilà. Hein? Tout est bien. Voilà. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite.
Rien que pour le plaisir, un des plus beaux films de l'année passée, pas non plus retenu pour les Césars, allez savoir pourquoi. Être vivant et le savoir de ce cher Alain Cavalier, enfin cher, son film ne l'est certainement pas dans l'économie très frugale dans laquelle il travaille, ce qui en fait sans doute, puisqu'on parlait de rentabilité, comme Éric Rohmer en son temps, un des cinéastes les plus rentables qui soit. Ce qui est intéressant dans ce qu'on entend, c'est que Alain Cavalier se donne le temps de faire son film. Il dit que dans 2, 3 mois, 4 mois, son film ne sera pas le même. Or, on est dans un système avec les aides, et cela depuis longtemps, qui repose entièrement sur des scénarios. Alors, on dit en plus maintenant, on entend que non seulement ça repose sur les scénarios, ces aides, mais ces scénarios sont pas assez bien écrits, donc on va les réécrire. Est-ce que dans les évolutions possibles du système des aides, par exemple, petite idée qu'on peut souffler à Boutonnat, on pourrait déprendre un peu le cinéma français de ce sacro-saint scénario qui décide de tout, Bertrand Bonello?
Je repars sur l'avance, hein, parce que c'est vrai que là, on a fait quelques rendez-vous au CNC pour essayer de remettre la mise en scène, en fait, au centre des conversations et du débat. Et un petit peu moins le scénario comme objet, et encore un peu moins juste le sujet comme espèce de chapelle. Donc voilà, remettre la mise en scène. Mais pour avoir, comme Marie, siégé à l'avance, il y a une dizaine d'années, les conversations, elles étaient vraiment autour du cinéma. Et Cavalier pourrait, par exemple, donner 2 pages. Si ces 2 pages éclairent sur le film à venir et tout d'un coup provoquent du désir, c'est quoi un scénario? C'est un truc qui doit provoquer du désir pour le futur. Voilà. Après, qu'il en provoque pas assez, pour moi c'est ça un scénario mal travaillé. Mais l'avance que j'ai connue et que j'ai envie de connaître encore serait capable d'aller sur un film d'Alain Cavalier sur 3 pages et 2 photos par exemple.
Nicole Vulzer, la richesse du cinéma français, on l'a dit, c'est pas forcément des films riches et qui coûtent, c'est sa multiplicité, c'est ce qui permet de faire coexister des grosses machines commerciales, des films plus audacieux, les uns finançant les autres par les systèmes de redistribution, et puis de faire émerger aussi des nouveaux et des nouvelles cinéastes. Mais le gros problème, c'est peut-être la salle de cinéma, c'est-à-dire l'accès des films, leur exposition. Vous observez, vous, l'écosystème du cinéma français depuis des années. Est-ce qu'il est plus difficile pour un film singulier d'exister aujourd'hui dans les salles?
Alors, il y avait un accord qui avait été signé, un accord professionnel, en 2016, à la fin du Festival de Cannes. Accord extrêmement intéressant dans lequel les salles de cinéma s'engageaient à diffuser pendant un laps de temps précis, qui était 15 jours normalement, tous les films Donc tous les films difficiles, les films d'auteur qui parfois ont du mal à trouver leur public, quel que soit le côté extrêmement brillant de ce film, ils ont parfois beaucoup de difficultés. La question de l'accès aux salles est extrêmement complexe. Donc normalement, l'affaire devait être réglée. Or, année après année, on s'aperçoit qu'il n'en est rien et que finalement, il n'y a pas de possibilité de sanction des grands exploitants. Donc finalement, c'est aussi difficile aujourd'hui. Alors chaque année, il y a une grand-messe des exploitants qui a lieu à Deauville au mois de septembre. Et donc là, la main sur le cœur, tous les exploitants disent « Mais non, il y a aucun problème, nous diffusons tous ces petits films. » C'est tout à fait inexact, mais le CNC n'a pas de pouvoir de sanction et je pense qu'il n'a pas non plus envie de sanctionner.
Marie Massementeil, vous sentez ce même manque d'envie derrière les beaux discours ?
Oui, alors, Nicole, elle fait référence aux engagements de programmation. Bon, ça pouvait être un peu plus compliqué parce que, en fait, ça voulait dire que les salles devaient s'engager et faire des choix, en fait. Et donc, à partir du moment où les salles, quelles qu'elles soient, enfin, les salles de plus de 6 écrans, hein, en dessous, ça peut être de la multiprogrammation. À partir du moment où elles choisissaient de défendre un film plus fragile, elle devait le garder 15 jours. Mais après, ce qu'on a vu, et c'est ça où on voit à chaque fois l'envers du décor, c'est que de plus en plus sur les salles, les multiplex par exemple, au bout de 15 jours, le film, même s'il fait des entrées supérieures à celles d'autres films, est dégagé pour faire entrer des nouveaux films, avec le sentiment pour l'exploitant qu'il a fait son boulot. Et que donc, du coup, il y a une sorte de rotation que certains distributeurs souligne en disant bah finalement il y a eu un effet pervers dans ces engagements de programmation, il faudrait peut-être y réfléchir parce que voilà, c'est exactement ça qui peut se passer. Alors après bon, la vraie question elle est plutôt sur c'est ce qu'on a appelé la zone de chalandise, c'est dire que lorsqu'il y a plusieurs établissements qui programment le même film au même moment, il faudrait peut-être essayer de réfléchir à ce que ça soit pas forcément dans le même périmètre géographique. Ça, c'est la deuxième chose. Et la dernière chose, c'est vrai qu'il y a une sorte de course à l'échalote d'un peu tout le monde actuellement, y compris, alors, commencer par les distributeurs, y compris sur tout type de films, les films d'auteur, comme les grosses machines commerciales, d'essayer de rentabiliser au maximum et de choper, comme on pourrait dire, un socle suffisamment important au départ pour que une sorte de bouche à oreille puisse s'organiser ensuite. Et je pense que c'est très difficile, y compris pour le producteur qui sort son film, parce que nous on en sort quoi, un par an, deux par an, trois par an maximum, de résister à ça en disant mais en fait sur les films d'auteur il peut y avoir encore un peu de longue traîne. Enfin, je pense que nous on a reçu au syndicat des producteurs indépendants François Aimé, le patron de l'AFCAE. Effectivement, ils pensent que c'est encore possible d'avoir une sorte de continuation en partant des grandes villes et puis en terminant sur les villes rurales, enfin sur les cinémas des établissements ruraux, et donc d'avoir, à condition que le réalisateur fasse des débats, que se balade partout, la possibilité pour que les films restent un peu plus longtemps que 15 jours en salle.
Un réalisateur qui se balade partout, j'imagine Bertrand Bonello, que quand vous avez sorti votre dernier film, Zombie Child, c'est un film que vous avez accompagné dans les salles. François Aimé, c'est donc le patron de l'AFCAE, de l'Association des Françaises des Cinémas d'Art et Essai, qui a un maillage extraordinaire dans ce pays, je crois qu'il est assez tout à fait unique au monde, avec beaucoup d'exploitants, de directeurs de salle, parce que l'exploitant est toujours un terme qui peut paraître un peu péjoratif pour l'auditeur, qui accompagne, qui fait un travail notamment sur le public jeune, puisqu'on en parlait, puisque si on veut que les jeunes aillent au cinéma, il faut aussi les former au cinéma. François Aimé appelle à la mise en place d'un réseau national de médiateurs culturels qui pourrait être financé à la place du Pass Culture, qui n'est pas très efficace a priori pour l'accès, en tout cas au cinéma. Ce travail du réalisateur dans les salles est quelque chose d'essentiel ?
Oui, d'ailleurs, on le fait. C'est fatigant, c'est chronophage. On le fait sur la France, on le fait sur l'étranger. On le fait parce qu'en effet, on est reçu par ces gens-là qui font le travail localement. Mais enfin, en gros, tout ce que Nicole et Marie disent, enfin, c'est ce qu'on appelle alors, oui, la régulation de l'exploitation. C'est vraiment, on est un peu au cœur du problème. Et c'est nous, par exemple, à la SRF, on milite très fort depuis longtemps sur la limitation des copies. C'est pas normal que des films puissent sortir sur 900, 1000 copies. Alors voilà, c'est le jour où on peut réguler tout ça. je pense qu'ils feront pas moins d'entrées, ils les feront peut-être sur un petit peu plus de temps, et ben on s'apercevra que tous les films trouvent leur place et que non, il n'y a pas trop de films. C'est vraiment le cœur du débat, il est là. C'est un combat difficile, la limitation des copies, et ça va pas s'arranger avec les décrets sur la publicité des films à la télévision.
Alors qu'est-ce que c'est que ce décret sur la publicité des films à la télévision? Pour l'instant, on n'avait pas le droit, et donc maintenant, on va pouvoir ouvrir ça. On se dira formidable, alors, puisque les gens sont devant leur, moins de personnes, on va en parler, sont devant leur télévision, mais ça va ouvrir la possibilité d'exposer des films, ou c'est encore ceux qui auront les moyens de se payer les écrans qui vont...
Je pense que la réponse est dans la question, parce que quand on connaît le prix des spots publicitaires, oui, ça va encore... Le risque, c'est que ça fracture encore plus la différence entre les gros et les petits. Après, on a bien vu, il y a eu des études de fait là où les pays où c'est autorisé. En fait, ça fait pas plus d'entrées pour les gros films. Mais en revanche, ça va leur coûter encore plus cher. Il y aura plus de ce qu'on appelle les frais d'édition. Et donc, pour rentabiliser les frais, ils vont sortir sur encore plus de salles. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui va dans le bon sens, non.
Marie Massementeil.
Non, mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'à peu près tout le cinéma, c'est-à-dire des producteurs ou distributeurs, y compris de gros films, de films commerciaux, étaient contre. Et on a expliqué par tous les moyens au ministre de la Culture que c'était pas une bonne idée. Et en fait, ils veulent faire notre bonheur malgré nous, en nous disant que ça va être très bien. Et c'est vrai que c'est aberrant, en fait, aussi bien pour les raisons dont parle Bertrand, mais par ailleurs, pour le cinéma qui nous intéresse, je suis pas sûre qu'un spot de Zombie Child avant le journal de TF1, ça soit intéressant. Et là où ça aurait pu être intéressant, ce serait sur Arte, par exemple, qui a pas droit de faire la publicité. Donc, c'est vrai qu'en plus, on se dit, peut-être pour certains films commerciaux du milieu, ça va être intéressant. Pour les films américains, évidemment. Mais toute une frange du cinéma d'auteur, on pense vraiment pas que ça va avoir une incidence, à part une autre course à l'échalote sur l'ensemble des distributeurs, de devoir faire comme le copain. Si le distributeur indépendant Ad Vitam fait de la publicité pour tel film, son compère Diafana ou le distributeur indépendant qui sort un film la même semaine se sentira obligé de faire de la publicité. Et donc c'est de l'argent qui va servir à rien, on pense, et qui va effectivement renforcer encore à la fois la disparité entre les grosses machines et les films d'auteur, et puis faire dépenser de l'argent à un secteur de la distribution indépendante qui est plutôt mal en point également.
Et cette question des frais d'édition, il faut peut-être expliquer un peu les remontées de recettes pour un producteur, une productrice comme vous, quand un film sort en salle, qu'est-ce qui vous revient et qu'est-ce qui est déduit avant que quelque chose puisse vous revenir, puisqu'on parlait de la rentabilité des films en salle, on l'a dit tout à l'heure, c'est loin d'être la seule source de rentabilité d'un film.
Pour financer un film, il y a de multiples moyens pour un producteur. Alors déjà, il y a pas mal d'argent privé parce que le producteur investit au moins l'écriture et le temps de développement d'un projet. Et ensuite, c'est vrai que, c'est pour faire peut-être une transition après les questions suivantes, aujourd'hui, le socle de financement du cinéma français et européen, d'une certaine façon, ça reste les chaînes de télévision, payantes et gratuites. Après, lorsqu'on se lance dans le financement, finalement, au départ, on va d'abord solliciter un distributeur, c'est-à-dire la personne qui va mettre le film en salle. Parce que, de plus en plus, et c'est assez naturel, même les chaînes de télévision ne vont regarder un projet qu'à partir du moment où il y a un distributeur. Alors, distributeur, il a deux fonctions, à la fois de sortir le film le mieux possible, et d'investir, et de permettre, par l'investissement d'un minimum garanti, participer au financement du film. Voilà. Et donc, lorsque le film sort, il va à la fois rémunérer son travail, ce qui est normal, par une commission sur qui va être entre 20 et 30% du prix du ticket, et récupérer son minimum garanti. Ce qui fait que on peut très bien, pendant un certain temps, avoir un film qui fonctionne plutôt bien, et que le distributeur n'ait pas récupéré son minimum garanti, et qu'il reste en perte par rapport au film qu'il a permis de financer. Par exemple, sur Party Girl, que j'ai produit, qui a eu la caméra d'or à Cannes, et qui a été finalement un assez grand succès par rapport à, d'une part, son coût, et d'autre part son potentiel qu'on pouvait envisager au départ, puisqu'il a fait 200 000 entrées, le distributeur n'a pas récupéré son MG. Et donc, je n'ai rien récupéré sur la salle France.
Mais heureusement, il y avait d'autres rentabilités sur combien d'années maintenant
Sur 5 ans, oui. Non, mais, et comme Zombie Child, il a récupéré par contre, parce que c'était la même personne sur les ventes internationales. Donc, de toute façon, c'est formidable. Tout s'est très bien passé.
Et surtout, c'était un très beau film.
Également.
C'est l'histoire d'une malédiction. Une malédiction qui, depuis 34 ans, frappe la vallée de la Vologne, un coin perdu de France dans les montagnes des Vosges. Certains pensent que la malédiction était inscrite dans le destin de cette vallée millénaire, où la forêt épaisse et profonde entoure des villages posés le long de la rivière. Une rivière aux reflets magiques quand le soleil tombe à l'horizon les soirs d'été. Mais une rivière menaçante aussi. Quand vient l'hiver, ses flots grossissent, le courant est puissant, l'eau est glacée, comme un tombeau liquide. Dans la vallée, lorsqu'un étranger n'est pas le bienvenu, on dit qu'il finira dans la Vologne. C'est ce qui est arrivé à un enfant innocent, le petit Grégory Villemain, 4 ans. Le triste soir du 16 octobre 1984. Le début de la malédiction.
Vous écoutez France Culture, plan d'art sur le cinéma français, état des lieux avant travaux avec Bertrand Bonello, Marie Massementeil et Nicole Vulzer. Et vous l'aurez reconnu, c'est Denis Podalydès qu'on entendait au début de Grégory, la série documentaire que le cinéaste Gilles Marchand, réalisateur du grand écran, c'est lui qui avait signé L'Autre Monde en 2010, Dans la forêt en 2016, qui avait écrit le scénario de Harry, un ami qui vous veut du bien de Dominique Moll, série documentaire donc il a signé pour Netflix. L'arrivée de Netflix en France, accueillie en grande pompe à l'inauguration de son siège par Franck Riester. Pour ceux qui ne savent pas qui est Franck Riester, c'est le ministre de la Culture. L'arrivée d'autres plateformes, Amazon, Apple et autres, Disney. Est-ce que c'est le début de la malédiction? Est-ce que ce sont des amis qui veulent du bien au cinéma français, puisqu'ils vont être obligés, on ne sait pas pour combien, si la loi audiovisuelle voit un jour le jour. Cette loi audiovisuelle qu'on attend, qui est repoussée pour cause de conflits sur la réforme des retraites, il faut peut-être quand même, pour rappeler le contexte de Nicole Vulzer, à quel point le cinéma français, depuis les lois Lang de 1986, est dépendant, Marie Massementeil vient d'en parler, pour son financement de la télévision en général et de Canal+ en particulier, et que quand le petit écran va mal et qu'il n'aime plus beaucoup le cinéma, c'est le grand écran qui souffre.
Absolument. En fait, les obligations d'investissement dans le cinéma, l'obligation des télévisions, sont directement liées à leur chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires de Canal+, s'est totalement étiolé, ce qui fait qu'effectivement, il y a une chute énorme du financement du cinéma par les télévisions. Ça reste toutefois le premier banquier du cinéma, mais Canal, enfin aujourd'hui c'est de l'ordre de 28% le financement des télévisions, du cinéma par les télévisions. La question aujourd'hui c'est quand est-ce que les plateformes vont réussir à pallier en fait ce manque de financement des télévisions. Toute la question est là. Aujourd'hui effectivement tout le monde est entre deux chaises et le financement de Netflix, enfin rien n'est encore absolument réglé. Si on leur demandera effectivement de financer à hauteur de 25% d'investissement dans le cinéma français, mais pour l'heure, rien n'est écrit, rien n'est acté.
Surtout 25% de quoi? Parce qu'on sait que Netflix peut être assez opaque sur son nombre d'abonnés, sur son chiffre d'affaires. Donc on va voir ce qu'ils vont donner. C'est évidemment le grand chantier qui s'annonce et dans lequel, là encore, avec vos organisations respectives, vous allez essayer de peser. Mais est-ce qu'il est sain de remplacer comme ça un contributeur par un autre? Alors le chiffre d'affaires des télévisions chute. Donc on va se dire, tiens, bah, les plateformes arrivent, prenons-leur de l'argent. Alors que ces plateformes n'ont pas du tout les mêmes attentes, en tout cas, en termes de contenu. Que les télévisions, par exemple, Bertrand Bonello.
Oui, tout à l'heure je parlais de mutation, c'est vraiment ça, hein, c'est-à-dire protéger certaines choses et puis en accueillir d'autres. Alors, est-ce qu'on va... La vraie question, c'est est-ce qu'on va et comment on va pouvoir travailler avec les plateformes? Et ça, on ne le sait pas encore, parce qu'en effet, les négociations n'ont pas commencé. Elles devraient commencer assez rapidement. Mais dans ces négociations, il y a évidemment beaucoup de choses. Il y a comment vont se partager, en effet, ces 25% entre l'audiovisuel et le cinéma. Quand on dit cinéma, on parle donc bien de films qui vont en salle. Mais il y a surtout, ça c'est un peu ma plus grande inquiétude, c'est est-ce qu'on va pouvoir conserver des clauses de diversité, à la fois financière mais aussi esthétique? Quel sera le dialogue possible? Et ça, on le sait pas encore. Canal+, par exemple, avec qui on avait ces dialogues-là, ils avaient des cases. Il y a une case cinéma d'auteur, il y a une case cinéma de genre, une case... Donc à un moment, les choses se partageaient et ils étaient quand même représentatifs de la diversité du cinéma français. Comment on va pouvoir imposer cette diversité-là aux plateformes? Comme je vous dis, les dialogues n'ont pas encore commencé. Il y a le gouvernement a nommé un médiateur, deux médiateurs, c'est ça, et ça va démarrer bientôt. Mais alors, il faut pas les rejeter. Il faut juste savoir, il faut les accueillir et savoir est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble.
Et vous sentez la possibilité, Marie Massementeil, de travailler ensemble? Ce qui a l'air un peu fou, c'est qu'on se dit, voilà, il y a urgence, il faudra régler ça très vite, mais on sait que la dernière négociation concernant la fameuse chronologie des médias, cet écheveau un peu complexe, mais qui vise, pour le simplifier, à garantir des priorités de fenêtre des diffusions des films en fonction de l'ampleur de l'investissement dans leur financement, ça a mis 10 ans. À se régler la dernière, et puis au bout d'un an, on dit bah, maintenant il va falloir la changer à nouveau avec l'arrivée des plateformes.
Non, mais en fait, s'ouvre, vous avez parlé avant travaux, moi on pourrait dire avant effondrement, peut-être, je sais pas.
Quand on fait des travaux, on risque de faire tomber des murs porteurs.
Bah, c'est la vraie question. Et je pense que là, du coup, on va rentrer dans une ère qui va être hyper intéressante entre nous, parce que ça va renvoyer non seulement à des questions de financement qui sont évidemment très importantes, mais des questions philosophiques. Et là, ça sera beaucoup plus intéressant, des questions philosophiques. Parce que d'une certaine façon, la loi audiovisuelle, elle part d'un constat que, effectivement, les financements par les chaînes de télévision classiques, historiques, s'étiolent. Alors, on pourrait dire, déjà, il faut peut-être arrêter de les casser. Vous savez, vous connaissez bien ça, vous, à Radio France, mais France Télévisions, à qui on enlève la brique France 4, ça peut avoir comme conséquence de dénaturer le modèle France 5, et puis après on se pose la question de la régionalisation, enfin. Et si c'est pour arriver à une seule chaîne, France 2, pour financer l'ensemble du patrimonial français, ce qu'elle fait bien, en fait, il continue à financer sur un large spectre le cinéma français. Nous, on voudrait qu'il se soit un peu plus encore en direction du cinéma d'auteur, on va essayer de conclure un accord avec eux dans ce sens. Mais effectivement, commencer par casser France Télévisions d'une part, et effectivement sur Canal+, il y a eu une baisse extrêmement importante des financements. Mais commencer à réfléchir sur donner les jours interdits à tout le monde, se poser la question effectivement de la neutralité technologique, c'est-à-dire de mettre les plateformes en face.
Les jours interdits, je précise, des jours où les films ne pouvaient pas passer à la télévision pour ne pas faire concurrence aux salles de cinéma.
Voilà, mais en même temps, Canal avait l'autorisation d'avoir des jours interdits. Et donc là, à côté du décret sur la publicité pour le cinéma et la télévision, il y a un autre décret qui va ouvrir les jours interdits à tout le monde. Et nous, tous ensemble, les orgas du cinéma, avaient dit, mais ça serait peut-être intelligent de permettre l'ouverture des jours interdits aux contributeurs du cinéma. C'est-à-dire, évidemment Canal sur l'ensemble de ses antennes, mais les chaînes contributives, ce qui concerne aussi évidemment le service public, mais France, mais TF1 et M6 également. Alors la question philosophique, c'est de se poser la question de face à cet étiolement généralisé, est-ce que c'est une bonne chose d'aller demander aux Américains de financer le cinéma d'auteur français? Voilà. C'est un peu l'idée, c'est l'idée principale de cette loi audiovisuelle. On trouve que c'est intéressant de les intégrer dans le mécanisme de financement, oui, bien sûr, puisqu'elles font concurrence en plus. Netflix taille des croupières à Canal. Mais après, est-ce que si le centre de décision, qui aujourd'hui est finalement impalpable, lorsqu'on travaille avec Canal, les chaînes en clair, sont pas si interventionnistes que ça? Et puis en plus, elles prennent juste un petit bout du séquençage de financement du cinéma d'auteur, ou en général d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas une mainmise totale sur le projet. Et donc se dire, c'est Jeff Bezos, Reed Hastings et Bob Iger qui vont peut-être potentiellement décider du financement du cinéma français. Moi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Donc on va devoir choisir entre le chevalier Jedi ou Dark Vador, et je ne sais pas ce qui va se passer.
Nicole Wiltzer.
Oui, mais aujourd'hui, en même temps, c'est le cinéma américain qui finance le cinéma français en salle. À chaque fois qu'un billet de Star Wars est vendu, ce billet, il y a quand même une participation qui est donnée précisément au financement du cinéma français.
Mais il n'a pas son mot à dire sur le contenu, parce que question philosophique, question esthétique, on pourrait dire aussi Bertrand Bonello, on sait qu'une bonne partie tout de même des films français produits chaque année, le ventre mou du cinéma est pensé en fonction de sa diffusion à la télévision, en fonction des vedettes qui doivent être embauchées, mais même en question de clarté de l'image, pas trop de sombre, un scénario compréhensible, parce que sinon ça va mal passer à la télévision. Si les plateformes internet disent « bon d'accord, on va vous financer », mais il faut que ce soit regardable sur un téléphone portable, ça va poser des questions esthétiques aussi.
Oh, je sais pas si quand Scorsese fait The Irishman, il se dit que sa mise en scène va changer parce que c'est pour Netflix. Je pense pas que ça nous change, nous, en tout cas. Non, c'est quelle sera la nature du dialogue possible et avec qui on va discuter. C'est quels seront nos interlocuteurs. Est-ce qu'ils auront des bureaux en France ou à Londres? Est-ce qu'on aura des possibilités de parler de nos films? Est-ce que les clauses de diversité feront que tous les films trouveront leur case, mais qu'est-ce que c'est qu'une case sur une plateforme? Enfin, c'est ces choses-là qu'on n'a pas du tout commencé à inventer, en fait. Alors, j'ai pas envie d'être pessimiste. Parce que bon, on fait du cinéma, ça coûte cher, on a besoin d'argent, là il y en a, donc voilà, voyons. Après, je ne sais pas encore comment ça va être vraiment possible, mais en tout cas, c'est le début des négociations, on va voir.
Entre les morts, part 1, c'est un extrait de My New Picture, votre film disque de 2007, Bertrand Bonello, et n'y voyez pas d'allusion du tout dans ce titre à l'état du cinéma français. Merci beaucoup Bertrand Bonello et Marie Masmonteil, on vous souhaite bien du courage et de la ténacité pour les négociations à venir, et puis n'oubliez pas de faire des films tout de même, parce que c'est ce qu'on attend de vous avant tout, et on lira les épisodes suivants du feuilleton éternel du cinéma en crise dans le monde sous votre plume, Nicole Wiltzer. Merci également à vous. La soirée des Césars, on le rappelle, c'est dans 2 semaines, le 28 février, mais avis qu'on n'a pas fini d'en parler d'ici là. Et pour ceux qui, comme nous, aiment le cinéma français quand il est étrange et audacieux, je signale la sortie en coffret Blu-ray DVD de la Mandico Box 2 qui rassemble nombre des courts-métrages flamboyants et polyphoniques du créateur des Garçons Sauvages, dont le très vénéneux Notre-Dame des Hormones, le tout accompagné de textes inédits de Paco Ntielman, Blutch et autres, c'est chez Malavida. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son d'Ophar Guéride. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Séverine Cassard. La semaine prochaine, Plan Large revient à son format habituel et se penchera sur King Vidor, le cinéaste de la démesure, de la violence et du désir, qui fera l'objet d'une rétrospective à la Berlinale cette année. Nous serons avec Françoise Zamour et en fin d'émission, Mathieu Macheret nous fera danser sur le tango satanique Chatan Tango de Bellatar, enfin distribué en France depuis mercredi dernier. Ne ratez pas l'occasion de vous plonger dans cette œuvre fleuve, vous en sortirez changé à jamais. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Toute une vie, présenté par Christine Bernard.